Michel Fontès est professeur des universités. Il est né en 1947. Il a une maîtrise de biochimie et une thèse de doctorat d'État. Et il a été responsable du groupe Génome humain et développement au laboratoire de physiopathologie chromosomique. Il est rentré à la faculté de médecine dans l'équipe de Jean-François Mattei en 1986. Et ce dernier lui a demandé de créer une unité de génétique médicale à Marseille. Il est passé ensuite du statut de chercheur à celui de professeur des universités, praticien hospitalier, en continuant le même travail de recherche. Il dirige un groupe de recherche dont l'objectif est de découvrir des médicaments pour les maladies génétiques. Donc, à cet effet, je vais tout de suite lui céder la parole, donc d'une part pour qu'il vous présente la conférence sur la recherche scientifique et aussi qu'il vous présente l'état d'avancement de ses travaux, puisque actuellement, il est en grand scoop. Voilà, vous êtes les premiers à pratiquement avoir l'actualité en live. Donc, merci de votre attention, en tout cas. Aussi, au niveau de l'articulation, vous avez à peu près 45 minutes de présentation par M. Fontès. Et après, vous aurez le loisir de lui poser toutes les questions que vous voulez pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Voilà, merci beaucoup.
Merci, Madi. Ouais, ça fonctionne. Oui, bah, j'avais pas prévu de faire petit baratin sur ce qu'on fait. Mais je le fais quand même très volontiers parce que, donc effectivement, je veux dire, l'activité de recherche du laboratoire concerne le développement de thérapies pour les maladies génétiques, puisque je veux dire, pour la plupart des maladies génétiques, dans 95%, il n'y a aucun traitement. Et maintenant, un des challenges majeurs de la discipline n'est plus de trouver la mutation qu'il y a dans la famille ou dans un gène, etc., puisqu'il y a plus de 1000 gènes pour lesquels on a trouvé la cause et plus de 60 000 mutations identifiées, mais d'offrir un traitement. Et donc, nous, je dirais, on travaille... je vais faire quelques ennemis, mais il ne faut pas le dire trop fort. La thérapie génique, majoritairement, ne marche pas. Et la thérapie cellulaire, c'est encore de la recherche pure. Donc, on s'est orienté vers des solutions beaucoup plus classiques qui sont du médicament et des molécules actives. Et une des maladies sur lesquelles on travaille, c'est la maladie dite de Charcot-Marie-Tooth, qui est la forme la plus fréquente de ce qu'on appelle les neuropathies héréditaires. C'est-à-dire que c'est le nerf périphérique qui n'a plus sa gaine de myéline. Il y a une espèce de câble électrique vide, sans la gaine. Donc le muscle n'est plus innervé, il dégénère et les gens, ça commence à peu près à 20 ans, mais il y a des formes pédiatriques à partir de 10 ans, et les gens, bon, on a de moins en moins de muscles erronés, la main, donc ils n'arrivent plus à marcher, enfin, c'est progressif. Hein. Et souvent, par exemple, ils n'arrivent pas à tourner le bouton de la porte, ils sont obligés d'avoir des orthèses, c'est ce qu'on appelle. Et c'est une maladie qui est quand même, à la limite, alors, vous connaissez les maladies orphelines noires, vous avez dû entendre parler quelque part. C'est une maladie dite orpheline rare, mais qui est à la limite, puisqu'elle touche quand même une personne sur 2500. Et la forme 1A sur laquelle on travaille, ça touche 200 000 personnes dans les pays industrialisés, et pour lequel il n'y a aucun traitement. Donc effectivement, vous verrez, j'ai mis la publication qui a fait démarrer l'histoire, vous expliquer comment ça fonctionne, notre évaluation et notre production. Et effectivement, nous avons proposé en 2004 et pris un brevet. On en parlera aussi de ça. Et donc, on a publié dans une grande revue nos résultats montrant que sur un modèle animal, ça corrigeait la maladie. Et donc, on a lancé des essais cliniques. Nous avons eu les premiers résultats il y a 15 jours. Alors, vous avez peut-être regardé la Provence, la Marseillaise, ou le Quotidien, sur moi, il y avait des articles là-dessus. Et effectivement, bon, je veux dire, cette maladie, il y a une amélioration évidente pour les malades. Sur un an de traitement, on a traité, nous, 180 malades. Puis il y a un essai pédiatrique australien où ils avaient traité 80. Voilà. Donc, je dirais, c'est probablement le premier traitement pour des maladies génétiques les plus fréquentes. Donc, on sert un peu à quelque chose aussi pour la société. Mais en même temps, c'est très intéressant parce que vous verrez, je ferai un petit baratin là-dessus. Là. En même temps, on a compris... En même temps, on a apporté une solution thérapeutique, mais en même temps, on a compris les mécanismes fondamentaux aussi, ce qui est extrêmement important. Voilà, alors bon, maintenant on va passer à la conférence proprement dite, enfin une conférence, je ne sais pas si c'est une conférence d'ailleurs, parce que c'est... Je ne suis pas un sociologue de la recherche scientifique, plutôt un praticien, et c'est un peu compliqué parce que, je veux dire, on ne sait pas trop dans ce genre de choses, c'est la première fois que je fais sur ce thème-là, j'en ai fait d'autres, pour des thèmes que je connais beaucoup mieux, la génétique par exemple. Mais donc, il est des fois difficile de savoir quelle est l'attente du public, c'est-à-dire vous. Ce que je sais, c'est que même des fois, jusqu'à la quatrième année après le bac, au début du master M2, les gens ne savent pas encore ce que ça veut dire la recherche scientifique, ce que ça veut dire un laboratoire et comment ça fonctionne. Hein. Donc, je veux dire, c'est effectivement quelque chose qui est intéressant à dire. Alors, il n'y aura pas de science pure là-dedans, mais je vais aborder un certain nombre de sujets et de problèmes. Et ce n'est pas forcément évident pour moi de savoir si c'est compréhensible ou pas, parce que bien sûr, pour moi, c'est compréhensible. Bien sûr, j'ai essayé d'être, et je commenterai, mais s'il y a des choses qui ne le sont pas, hein, ne vous hésitez pas, on n'est pas dans un cours magistral et vous interrompre et poser la question quand vous voulez, que ce soit d'ailleurs des élèves ou les professeurs dans la salle, il n'y a aucun problème. Au contraire, même je préfère ça que si vous ne comprenez pas et que vous êtes lâché très rapidement. Pas très rapidement parce qu'il y a des choses. Voilà, alors la première chose que je voulais dire et faire, c'est un petit peu un historique de la recherche scientifique. Alors, on peut penser que ça fait longtemps que ça existe et que ça fait longtemps qu'il y a une organisation de la recherche. En fait, on s'aperçoit que c'est à peine au XVIe siècle qu'on a commencé à envisager d'avoir une conception de la connaissance scientifique au sens large qui peut aider à comprendre le monde en dehors, mais de manière objective et en dehors de certaines considérations. Alors, les Grecs, c'est évident qu'ils faisaient de la science, mais elle était toujours dans un contexte qui était un contexte philosophique, religieux, et donc ce n'était pas un objet en soi uniquement. Toutes les recherches scientifiques faites par les Grecs, etc., étaient dans le cadre de leur école philosophique et pas du tout l'objet en lui-même. Même la géométrie qu'ils ont inventée, c'était dans la compréhension du panthéon grec et de comment on conçoit de manière globale le monde. Et donc, c'est Bacon, qui était un anglais, et qui a été le précurseur de cette idée et qui a lancé tout cela. Mais si on regarde bien l'historique, jusqu'au XIXe siècle, ce qu'on peut appeler la recherche est quelque chose qui était très individuel, peu organisé, qui était l'affaire souvent de mécénat, c'est-à-dire des gens qui aidaient, des penseurs, des gens offerts. Et très peu, la recherche telle qu'on la connaît, institutionnalisée, avec des structures précises, elle date que du XIXe siècle. Hein. Avant, c'était pas... Bon, il y avait des gens qui avaient Newton et sa pomme, ils avaient déjà des idées, etc. Mais Newton, il écrivait dans son bureau, c'est tout. Hein, et c'est vrai que ça a correspondu aussi majoritairement au XIXe siècle à la structuration des grandes structures, notamment universitaires, telles qu'on les connaît actuellement. Et c'est à ce moment-là, c'est qu'au XIXe siècle, la notion de laboratoire de recherche apparaît vraiment. Avant, comme je vous dis, c'est plutôt un individu qui pouvait être un professeur, mais qui pouvait travailler chez lui, trafiquer dans sa cuisine, enfin, n'importe quoi. J'ai des premières dissections sur les grenouilles, par exemple, ça n'avait pas été fait dans des laboratoires. Alors, donc, comme je vous dis, à partir de ce moment-là, la recherche, elle s'est structurée en premier dans des grandes universités. Et on a commencé petit à petit à... Alors, ça, c'est beaucoup plus récent. Après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, pardon. Et on a commencé, donc, au début des années 50-60, à faire des distinguos dans la recherche. Au début... Ce qui est à la fois juste, moi ça ne me plaît pas, hein, mais je dirais pourquoi. Bon. Mais c'est vrai que vous allez toujours en entendre parler et que les gens mêlent tout. Alors, les trois distinguos qu'on fait de manière classique, que vous allez retrouver dans les bouquins, les journaux, n'importe quoi, c'est bon, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et ce que j'appelle les activités de développement. Je vous donnerai un exemple. Alors, la recherche fondamentale, ben, c'est clair, c'est la compréhension d'un mécanisme. Bon, moi, je travaille domaine de la biologie, hein. Chez nous c'est la compréhension de mécanismes biologiques ou la définition d'un concept dans le cadre d'un grand mécanisme biologique, mais pour la compréhension du phénomène en soi, en dehors de toute application. Donc, l'objet c'est la compréhension du phénomène. Bon, la recherche appliquée, ben, vous savez, vous voyez plus ce que ça veut dire, ben, c'est le but n'est plus la compréhension d'un phénomène, mais quelle application peut-on trouver à quelque chose? Ou par exemple, dans notre cas, je prendrais l'exemple justement du labo. Je n'avais pas réfléchi, mais je vais le prendre parce que c'est mieux parce que les trois existent. Et le reste, c'est le développement. Alors le développement, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que quand vous avez quelque chose, par exemple, un prototype, vous avez des faits, mais après, c'est souvent pas le produit final. Alors, c'est-à-dire, c'est la suite souvent de la recherche appliquée, c'est-à-dire pour en faire un produit final. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, je veux dire, la recherche fondamentale. Alors, dans notre cas, mais je vais prendre le cas du laboratoire, ce sera plus simple. Qu'est-ce qu'on a fait? En fait, donc, par exemple, on travaille sur plusieurs maladies. Comme je vous dis, la maladie de Charcot-Marie Tooth. C'est la première. Et puis il y en a une autre qui est encore plus fréquente, celle-là c'est la plus fréquente, elle touche une personne sur 600, c'est la polykystose rénale. La polykystose rénale, en fait les gens ont des kystes qui se forment dans les reins, multiples comme la forme. Excusez, 30 secondes. Bon, ça sonnera tout seul, hein. Il n'est pas trop fort. Donc, les kystes se forment dans les reins, ce qui fait qu'un rein, vous voyez, ça pourrait être 300 grammes. Un malade polykystique, elle a un rein de 3 kilos. Et donc, les kystes se forment, grossissent, écrasent les tubules et tuent le rein. Et donc, les gens sont en dialyse à peu près vers 50 ans. Et il y a deux gènes qui sont impliqués, dont un qui est un canal calcique. Eh bien, en faisant des modèles animaux, des souris, enfin, toutes sortes de travaux, on a pu montrer que un de ces gènes, eh bien, c'est la commande de ce qu'on appelle la mitose, c'est-à-dire c'est lui qui donne le signal de la duplication d'une structure qu'on appelle le centrosome et qui permet à la cellule de se diviser, de donner le signal, non pas de la duplication de l'ADN, mais de la division cellulaire. Donc ça, je veux dire, en travaillant sur une maladie, sur un gène, on est tombé sur un mécanisme fondamental. Et donc en fait, même si on travaillait sur ce gène et sur cette maladie, on a fait de la recherche fondamentale. C'est pour ça que je veux dire. Bon, il se trouve que on a une molécule, je ne vais pas vous dire laquelle, parce qu'on n'a pas de brevet là-dessus aussi, qui corrige ça, et qui corrige les défauts de ce gène. Donc, en fait, on est en train de tester sur des modèles animaux, sur des souris qu'on a fait, qui reproduisent la maladie, et on est en train de tester si ça ne les guérit pas. Parce que si ça les guérit, on a fait, depuis le fondamental, de la recherche appliquée. On a fait de la recherche appliquée parce qu'on aura un cardinal médicament, une molécule qui, déjà chez l'animal, parce qu'en première intention, vous ne le faites jamais chez l'homme. Hein. C'est-à-dire, vous n'allez pas lancer à faire un truc comme ça qui risque d'être toxique en plus. Et tout. Bon. Vous faites toujours sur les modèles des animaux les plus pertinents possibles. Donc, on va peut-être passer sur la recherche appliquée. Admettons, j'espère fortement que ça va marcher. Admettons que ça marche. Donc, on est en train effectivement d'écrire un brevet, de tester sur l'animal, et que. On va s'avancer aussi sur des essais cliniques, si on arrive à trouver de l'argent. Hein. Ça, ce sera un des thèmes tout à l'heure. Un essai clinique, l'essai clinique de Charcot-Marie, ça a coûté 1 million d'euros. Hein. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on pourrait être malade. Donc, je veux dire, on va arriver à faire la preuve de concept chez l'homme. C'est pas la recherche appliquée ou de la recherche clinique. Parce que vous allez démontrer que ça marchait sur des cellules, sur des animaux, ça ne sait pas. Ma connaissance, nous sommes un assemblage de cellules, mais c'est plus complexe, le corps humain, et nous ne sommes pas des souris. Donc, je veux dire, il faut quand même faire la preuve que sur des malades, alors on met caractère d'amélioration, comment ça, qu'est-ce qu'on améliore, comment on améliore, etc. Puis on regarde si ça marche. Donc, je veux dire, si le rein continue à fonctionner, bon, si le volume ne croît pas. Donc, on va arriver à un candidat médicament. Mais un candidat médicament, ce n'est pas un médicament. Un médicament, c'est quelque chose qui est accepté par une agence soit française, soit européenne, soit internationale, sur, qui a ce qu'on appelle une AMM, une autorisation de mise sur le marché, qui a toutes des critères, c'est-à-dire que, je veux dire, nous, quand on injecte un animal ou qu'on le donne à un biberon d'humain, c'est de la poudre, quoi. Mais, je veux dire, les gens, quand vous prenez un médicament, j'espère que vous n'en prenez pas, mais je veux dire, si vous prenez un médicament, je veux dire, vous ne pesez pas votre poudre, hein, vous avez quelque chose, une forme, etc. C'est ce qu'on appelle développer le médicament pour arriver jusqu'à au malade lui-même, ce qu'on appelle l'unimalade. C'est-à-dire, et ça implique des choses qui ne sont pas forcément non plus des choses très scientifiques. Alors, tous les aspects réglementaires pour le médicament, c'est des spécialistes qui font ça. Il y a un dossier réglementaire que l'on dépose pour dire, bon, est-ce que vous m'autorisez à mettre sur le marché cette molécule pour telle application? Ça, c'est ce qu'on appelle une activité de développement. Donc, vous voyez que... Alors, on distingue toujours un peu ces genres, ces différents types de recherches. Moi, je pense que c'est très imbriqué. On a besoin de comprendre les mécanismes fondamentaux pour faire de l'application. Mais quand on fait de l'application, souvent on retombe sur du fondamental. Et le reste, eh ben, ça suppose que ça ait bien fonctionné en amont. Donc, je veux dire, c'est pas si simple que ça. Alors, il y a des gens qui... Il y a eu une tendance à une époque, heureusement, pas dans les pays anglo-saxons, mais en France, il y a une tendance un petit peu à... Parce que la recherche fondamentale se fait souvent dans des structures de recherche publiques et classiques, et la recherche appliquée, souvent, c'est moins le cas, dans des structures privées, dans les laboratoires pharmaceutiques. Et donc, le chercheur fondamental a toujours tendance à dire, nous, on fait du fondamental intelligent, l'appliqué, c'est pas... Etc. Dans cette, heureusement, c'est en train de disparaître, mais je crois que, bon, on passe très facilement de l'un à l'autre, et le principal étant de faire de la bonne recherche. Alors, comment c'est organisé, là? Parce que vous dites, je fais de la recherche, d'accord? Où, quand, comment, avec quels moyens, etc. Je veux dire, c'est pas forcément extrêmement évident. Donc, en fait, de nos jours, hein, l'organisation de recherche, bien, elle implique deux choses. Bon, des structures de recherche, de recherche étant des bâtiments et des moyens, alors moyens matériels, hein, équipement par exemple, de l'argent, des produits, etc. Et les moyens humains, c'est-à-dire que les gens qui sont impliqués dans les processus de recherche. Et deuxième chose, des agences de financement. Si je vous explique tout ça, vous verrez aussi pourquoi, vous verrez que ça implique deux choses. Il y a deux conséquences de ceci, c'est que le chercheur ne cherche plus. Il y a, je vous dis, au 19e siècle ou avant, s'il avait trouvé des moyens ou s'il était suffisamment riche lui-même, il faisait ce qu'il voulait. Ça, c'est fini. Et donc, on s'inscrit toujours dans ce cadre qui est très contrôlé. Et on ne se met pas à chercher. On dépose des projets de recherche, vous verrez que ce n'est pas tout à fait pareil. Alors, l'organisation hiérarchique dans majorité des pays, sauf la France, bien sûr, c'est toujours une exception, elle est la suivante. Elle est d'abord, bon, l'université, c'est-à-dire le campus, hein, c'est-à-dire un endroit où se trouvent les laboratoires, en même temps l'enseignement, les laboratoires de recherche et tout ce qui est commun. Par exemple, dans une grande université, comme par exemple Harvard, où sur le campus d'Harvard, il y a plusieurs milliers de chercheurs. Il y a 40 000 étudiants, je crois, plusieurs milliers de chercheurs. Ça, c'est le cadre global. Et donc, vous êtes dans une université. Mais ensuite, vous appartenez à un département. Le département, c'est, par exemple, le département de génétique. C'est-à-dire, je suis à Harvard, mais je suis dans le département de génétique. Et le département, je veux dire, est un ensemble qui va regrouper toutes les équipes ou laboratoires qui sont dans le même domaine. Alors, je dis génétique, il y a des départements d'éphologie, il y a beaucoup de départements de neurologie, parce que ça, c'est un thème très important en biologie. Et en général, alors ça, ça dépend des universités, de leur capacité, de leur taille, de leur ce que l'on veut. Et ça regroupe à peu près une centaine en moyenne, quelques centaines, de une à quelques centaines de personnels. Et l'unité de base, c'est l'équipe laboratoire. Par exemple, dans notre cas, bon là, j'ai mis neurogénétique, c'est quand même pas de mon de neuro. C'est un point de génétique parce que ça existe, j'en connais. Mais c'est moi qui fais ça. Pardon ? Plus près ? Et donc, je veux dire, ça, c'est l'équipe de base qui, elle, est sur un thème très focalisé, particulier. Alors, nous, par exemple, je vous montrerai tout à l'heure, dans le laboratoire, il y a trois équipes, une qui travaille sur le Charcot-Marie, une qui travaille sur le PKD, et l'autre qui fait du développement de médicaments. Et ça, c'est en général 10-15 personnes qui travaillent tous sur un thème et qui fait en sorte que l'on soit... Là, j'ai rien fait, pourtant. C'est quoi, c'est ça? Et donc, le département, comme je vous ai dit, comprend en moyenne. Vous faites le compte, par exemple, bon, une dizaine, quelques dizaines d'équipes composent un département. Alors, les moyens. À l'étranger, pratiquement tous les personnels sont temporaires. Il n'y a pas de poste fixe. Très peu. Et ce sont des contrats en général, bon, 3 ans, ce n'est pas beaucoup, mais en général, de 5 ans. Et les chercheurs les plus reconnus, par contre, sont attribués des postes beaucoup plus stables, ce qu'on appelle les tenures, et comme pour 10 ans renouvelables. Donc là, pratiquement, c'est. Ça a bien sûr un inconvénient, mais les Américains, eux, ils voient un avantage parce que, je veux dire, ils peuvent avoir leur contrat quand ils veulent, si on leur offre beaucoup mieux. Et le grand sport des grandes universités, c'est de piquer à l'université concurrente leurs meilleurs chercheurs. Et pour ça, leur offrir des moyens en salaire et en capacité de travail bien supérieurs à ce qu'on leur offre ailleurs. Alors, les crédits, parce que je vous ai parlé de l'essai clinique, mais je veux dire, nous avons des budgets, nous avons besoin de crédits pour faire un certain nombre de choses qu'on verra, et ils sont attribués à l'étranger, ce qu'on appelle par projet. Alors, si vous n'avez pas de crédit, il ne faut rien faire en recherche. Il est clair, il faut des moyens. Donc, vous déposez un projet. Projet qui va être évalué par un certain nombre d'agences qu'on verra après. Donc, ce qui veut dire que vous ne cherchez pas ce que vous voulez, vous déposez un projet et on vous dit oui, non. Vous demandez tant, on vous dit, en général, on dit on donne toujours un peu moins, on demande un peu plus pour un peu moins, on va voir ce qu'il faut. Et donc, c'est le contrôle majoritaire et le pilotage de la recherche par les agences, se fait majoritairement par les agences de moyens à travers le financement d'un projet. Vous déposez un projet, il est financé, ben c'est accepté, il n'est pas accepté. Et comme ça, c'est comme ça que parce que je veux dire, il y a une idée, alors peut-être que vous ne l'avez pas, hein, c'est parfait si vous ne l'avez pas. Il y a des gens qui croient que le chercheur, moi j'entends ça une fois à la télé, il cherche n'importe quoi, ce qui l'amuse, voilà. Allez, si je travaillais là-dessus, et si je cherchais ça, ça c'est totalement faux. C'est-à-dire, parce que c'est. Alors, c'est peut-être vrai, pardon, pour les sciences humaines et sociales. C'est-à-dire, je parle, là, c'est vrai, que des sciences dites dures, je veux dire, dans lesquelles il faut des moyens, et si vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas faire. Je vous citerai, par exemple, des. Alors, les crédits, ils sont attribués par qui? Là, je vous parle après, on parlera de la France, hein. Ils sont attribués par des organismes publics. Par exemple, ça, c'est l'équivalent de l'INSERM aux États-Unis. Alors, c'est MRC, NIH, Planck, etc. Ça, donc, ce sont soit des organismes publics qui attribuent, soit des organismes, par exemple, caritatifs. Alors, aux États-Unis, ils sont nombreux. Hein. Les États-Unis ont quelque chose de très bien, c'est-à-dire c'est que ils ont le sens. Ils ont beaucoup d'argent, donnent beaucoup d'argent au caritatif. Et par exemple, mais alors ils donnent à ceux qui intéressent eux. C'est-à-dire par exemple si vous avez une famille de milliardaires qui est atteinte d'une maladie génétique, ils font une fondation pour le truc, ils donnent une somme d'argent extrêmement importante. Et donc ils arrivent comme ça, suivant à avoir beaucoup d'argent. Le Wellcome Trust en Angleterre est à peu près pareil. La troisième source de financement, ben c'est un partenariat avec un industriel, un ou des, ce qu'on appelle un consortium, public-privé, qui se fait de manière assez classique. Alors, et comme je dis, l'attribution de crédit se fait toujours après avis d'un comité d'experts. Toujours. C'est-à-dire qu'on envoie, on écrit un projet, on l'envoie, il est évalué par des experts qui disent oui, non, et après le financeur s'appuie sur ses avis pour dire bon, on donne ou on ne donne pas. Donc il se fait toujours. Donc effectivement, c'est à la fois très bien parce que c'est un garde-fou. C'est-à-dire que le type ne va pas se mettre à chercher dans des directions ou à faire des recherches complètement. Par exemple, je veux dire, jusqu'à ce que il y ait une autorisation d'utiliser les cellules souches embryonnaires humaines aux États-Unis, ils n'ont pas pu faire de recherche. Parce que, je veux dire, l'attribution et dans les dossiers de demande, vous avez toujours un aspect, par exemple, éthique. Et donc, par exemple, si vous êtes obligé, si vous travaillez sur le matériel humain, de montrer que vous avez un avis positif de votre comité d'éthique et que vous respectez la loi. Si vous prélevez quelque chose, vous devez dire que vous demandez le consentement éclairé aux gens, etc. Donc, je veux dire, vous avez toujours un contrôle là-dessus. Ça, moi, je trouve ça parfait. Le problème que ça pose, alors ça, si vous voulez, on en parlera après, c'est le comité d'experts. Alors, qui est un expert, qui ne l'est pas? Ça, c'est un problème énorme. Mais là, bon, je veux dire... Je ferai à la fin un petit commentaire là-dessus. Alors, la France. Bon, la France est comme toujours, elle est un peu différente. Bon, et je vous parlerai que de la recherche scientifique dite académique, c'est ce qu'on appelle la recherche publique. Alors, les laboratoires dépendent, comme je vous dis, majoritairement à l'étranger, ils dépendent de l'université. Pratiquement toujours. Par contre, en France, ils dépendent soit d'une université, soit de ce qu'on appelle un EPST, c'est-à-dire un organisme public à caractère scientifique et technique. Alors, il y en a deux qui sont connus, c'est le CNRS, et l'INSERM pour la recherche médicale. Donc, je veux dire, vous avez l'appartenance d'un labo. Alors, le laboratoire peut appartenir à l'université, au CNRS, pas, ou à l'université, à l'INSERM, mais pas au CNRS et à l'INSERM, pas, en même temps. Alors, chaque organisme a son système, un, d'évaluation, deux, d'attribution des crédits, et trois, de gestion. Ce qui fait que, par exemple, les logiciels de gestion pour les trois ne sont pas les mêmes. Donc, si vous avez des crédits qui viennent de différentes sources, vous n'arrivez pas à les croiser, parce que chacun a voulu son logiciel. Donc ça, c'est une situation typiquement française qui n'existe nulle part ailleurs. Si, elle a été calquée sur l'Académie des sciences de l'Union soviétique après la guerre. Mais non, le CNRS a été fait comme ça, hein, par Jean Perrin. Hein. Oui, c'est dit même sur le site. Hein. Et voilà. Alors, comment aux États-Unis, il n'y a pas de création d'un laboratoire. C'est pas comme ça. C'est le chef de département, avec le doyen de la faculté, décide de faire venir un groupe avec un chercheur, il lui attribue, il dit, voilà, le type dit, oui, je viens. Mais je veux tant de trucs. Il trouve un accord, il négocie, on lui trouve à ce moment-là des locaux, l'argent, il arrive. En France, ce n'est pas comme ça. En France, il faut demander la création de la structure, du laboratoire, qui est créé pour 4 ans, renouvelable une fois. C'est tout. Et au bout de 8 ans, la structure disparaît. C'est comme ça que vous voyez, il y a des numéros dans les unités INSERM, CNRS, etc. L'INSERM, par exemple, je veux dire, au début, les premiers laboratoires qui ont été créés, c'était l'unité 1, maintenant c'est à 950, etc. Et Donc, vous êtes obligé au bout de 8 ans. Alors, avant, c'était 12 ans. Moi, quand j'étais directeur, c'était 12 ans. J'avais même fait 13. Maintenant, c'est 8 ans. Et donc, vous demandez un renouvellement, mais au bout des 8 ans, vous êtes obligé de repartir sur un autre projet. Alors, le directeur peut être le même que l'ancien. OK, le porteur de projet peut être le même. Vous êtes obligé de réécrire complètement un projet et de re-avoir une évaluation complète de votre projet. Donc, vous voyez, le laboratoire ne se crée pas comme ça. C'est-à-dire, on n'institue pas à dire... Et alors, la manière dont ça se fait, ben voilà, vous écrivez un dossier. Vous dites, voilà, je voudrais étudier ça. Je voudrais faire comme ça, avec telle personne. Vous êtes obligé d'avoir un organigramme. Vous êtes obligé de dire l'argent que vous voulez. Comment vous allez trouver l'argent complémentaire, etc. Donc, vous faites tout un dossier qui est envoyé à une agence nationale, parce que ça, c'est tout à fait récent, qui s'appelle l'Agence nationale pour les... Enfin, l'ARS, c'est l'agence d'évaluation pour la recherche. Cette agence, elle nomme des experts, qu'elle envoie le dossier, alors faisant signer des accords de confidentialité, parce que vous donnez des infos sur vos idées, ce qui est un problème, d'ailleurs. Et moi, à mon avis, un jour ou l'autre, il va y avoir des bagarres d'avocats là-dessus, parce que quand il n'y a pas d'application, ça va, mais quand il y a une application, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin bon, ça c'est encore autre chose. Et donc ces experts, ils lisent le dossier et ils viennent vous voir. Parce que ça c'est très bien, parce qu'ils voient par exemple, juste dire, vous dites, ben, j'ai négocié avec l'université, qui est présente aussi au moment de l'inauguration, elle m'attribue 200 mètres carrés à cet endroit-là. Je sais parce que moi j'étais expert dans ce truc, et puis je me suis aperçu qu'en fait il n'avait rien et qu'on ne lui a pas donné, que c'était promis. Donc je veux dire, vous ne pouvez pas. Vous pouvez imaginer un projet extraordinaire, mais si vous n'avez pas la certitude d'avoir des moyens à côté et d'avoir au moins des paillasses pour faire votre manip, bon voilà. Donc les gens, ils viennent, ils posent des questions, et vous leur répondez, au mieux d'ailleurs, et vous leur répondez, vous vendez votre camelot, hein, vous vendez votre projet, et vous essayez de leur montrer que vous êtes le meilleur, et que c'est extraordinaire, etc. Parce que, avec une notion de compétition, parce que, je veux dire, tout, même si l'avis est positif, ce n'est pas évident que tout soit créé. Parce que si le ministère ne donne pas d'argent, donne, par exemple, il y a 100 dossiers, il y en a 50 qui sont évalués positivement, mais il y a de l'argent que pour en créer 20. Ben, voilà. Donc, il y aura un classement après. Et donc, ils vont donner des avis comme ça, puisque ce comité est purement consultatif. Et après, c'est... grands esprits, soit au ministère, soit à la direction du CNRS, de l'INSERM, avec quelques conseillers dont on ne sait pas toujours très bien qui sont ou d'où ils viennent, qui disent oui, non. Alors, si c'est l'avis est négatif, bon, c'est clair. L'avantage ne sera pas créé. Et votre projet ne sera pas accepté. Mais ça peut très bien être oui, mais là-dedans, on va tailler encore quelques-uns. Alors là, je veux dire, les critères sont souvent un peu confus. Et donc, la structure, elle est créée ou pas. Alors, lorsqu'elle est créée, vous avez un laboratoire et vous allez discuter. Par exemple, la direction de l'INSERM, qui est votre ce qu'on appelle tutelle, et vous allez discuter pour dire, voilà, mais il faut de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous donner ce qu'on appelle un budget récurrent. Récurrent, ça veut dire que c'est chaque année. Chaque année, il donne. Donc, c'est pour 4 ans. Et va vous donner, par exemple, nous étions dans l'unité, il y avait 60 personnes, l'unité que je dirigeais, ils nous donnaient 200 000 euros. Là, vous avez négocié 200 000 euros. Et là-dedans, vous en faites ce que vous en voulez. Alors, ils contrôlent, un contrôle a posteriori, vous faites ce que vous voulez, c'est-à-dire c'est vous en tant que directeur avec le comité de direction qui choisissez ce que vous en faites. Il est évident que si je m'achète une Ferrari, etc., je veux dire, je vais être sanctionné. Et après, personne ne fait ça. Moi, j'ai pas vu de problème comme ça. Alors, ce que j'ai dit, quand vous faites ce que vous en voulez, c'est-à-dire que, par exemple, si à un moment, vous pouvez dire, ben, cette année, on va prendre la moitié pour acheter un appareil parce que y en a un qui tombe en panne, il est trop vieux, donc on mettra moins pour acheter du papier ou je sais pas quoi. Et on va essayer d'économiser là-dessus et on va s'acheter cet appareil. Par exemple. Donc ça, c'est une décision en interne qui vous regarde. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça représente de moins en moins le pourcentage dans les laboratoires. C'est-à-dire que le public donne une somme, mais après, il faut de plus en plus aller à la pêche au crédit maintenant. Et souvent, ça peut aller moins de 20% ce budget-là. Donc, tout le reste, il faut que vous ayez cherché l'argent pour aller parier. Et pour chercher l'argent, eh bien, parce que majoritairement, moi, je veux dire, le récurrent, ça paye les coûts fixes et les coûts d'infrastructure, hein, du laboratoire. Donc, vous allez chercher de l'argent. Et le restant du budget, eh bien, qui vous permet de faire votre recherche, si vous n'avez pas, comme je vous dis, pas grand-chose, et c'est par projet. Alors, il y a une agence d'évaluation qui s'appelle l'Agence nationale pour la recherche, qui est l'ANR. Eh bien, c'est pareil. Vous écrivez un projet. Il y a un appel d'offres par an. Il y a à peu près 20 programmes nationaux. Et il y a un conseil scientifique qui évalue, qui dit oui, non. Alors, moi, j'étais présent dans une commission ANR qui évaluait environnement et santé. Alors, et recevait. Alors, par exemple, on a eu des projets sur le téléphone portable. Si on met à côté de cellules, ben, il y en a deux, on les a démolis complètement. On n'a pas donné d'argent pour travailler. Ce n'est pas que le thème était inintéressant, mais ils utilisaient des cellules, ils irradiaient des cellules avec des fréquences de portables, ok, mais des cellules à laquelle le portable ne pourrait pas, les fibroblastes de la peau qui sont d'une jambe, je veux dire, le portable, il ne va pas arriver jusque-là. Hein. Donc, et les critères qu'ils employaient étaient des critères qui étaient inintéressants. Et ce qu'ils voulaient faire n'était pas... Donc, je veux dire, vous pouvez avoir un thème intéressant à développer, dire, il faudrait étudier ça, mais après, vous devez décliner ce que vous allez faire de manière concrète et demander l'argent qui va avec, parce que si vous demandez trop ou pas assez, c'est pas bien non plus. Et donc, vous êtes évalué, et votre projet, il passe ou il passe pas. Et on donne de l'argent ou on donne pas d'argent. On donne pas d'argent, ben, vous n'allez pas là-dessus. Et alors... Les comités d'évaluation, quand ils sont... Bon, moi, ça, c'est ce que je faisais. Ce n'est pas forcément non plus un couperet. C'est-à-dire que, par exemple, il y a quelques projets qui étaient très bien, mais qui avaient quelques points qui posaient problème. Et donc, on ne pouvait pas les assurer que l'année après, ils l'auraient, etc. Trois fois, on peut demander. Mais souvent, bon, j'ai contacté personnellement les gens en disant, ben, si vous améliorez ce point-là, on l'a écrit, hein, bon, je pense que ce serait très intéressant. Et les projets sont passés l'année d'après, quoi. Parce que les points négatifs ont été gommés. Bon, les gens qui ne voulaient pas entendre raison, bah, tant pis pour eux. Hein. Mais ceux qui voulaient, c'était... Donc, la deuxième chose pour laquelle on peut... La deuxième manière d'avoir l'argent, bah, c'est de passer un accord avec un laboratoire. Par exemple, dans notre cas, un laboratoire de recherche pharmaceutique. Ce qui est difficile pour plusieurs raisons, d'abord, souvent, soit ça ne l'intéresse pas, parce que c'est trop de la recherche qui est trop loin de l'application du médicament. Soit ça les intéresse beaucoup, mais alors là, on a intérêt à ce que vos cabinets d'avocats de l'université soient performants pour ne pas vous faire piller. Là, je veux dire, le danger, il existe fortement et à ce point. Mais un bon accord peut être négocié, nous on en a eu un comme ça, et qui devient intéressant. Donc vous voyez que c'est ça, alors je ne veux pas vous décourager, mais travailler d'un chercheur, c'est beaucoup d'aller à la pêche à l'argent.
Vous, vous êtes responsable d'un projet, en fait. Vous avez été...
Moi, vous, oui.
Ça représente quel pourcentage de votre temps de travail, en fait, que cette pêche au crédit?
Mais ça, c'est une bonne... Bon. Moi, j'ai ma propre équipe de recherche dans le laboratoire. En plus, je suis directeur du laboratoire. En plus, là, heureusement, j'ai abandonné. C'est moi qui ai créé l'institut où il y a 600 personnes à Marseille. Bon. 80% de mon temps, je le passe à l'administration pour chercher le crédit. Ça, c'est clair. Alors maintenant, j'essaye de faire de moins en moins. Mais ben, parce que, je veux dire, c'est ben, recherche de crédit et recherche... Et oui, oui. Recherche de crédit ou pas recherche de crédit, pour moi, la recherche de crédit, c'est avant tout faire un projet et l'écrire. Et ça c'est pas, pour moi, c'est pas un problème majeur, parce que c'est une activité de recherche. Parce que vous réfléchissez. Quand vous écrivez un projet, bon, tant qu'à faire, il vaut mieux qu'il soit bien pensé, hein, et qu'il ait un sens, le projet. Donc, c'est une activité, pour moi, de recherche. Ça, c'est pas... Et puis, je veux dire, bon, quand on demande à des endroits différents, il y a l'ordinateur, et copier-coller, on l'adapte l'un sur l'autre, on n'écrit pas tout le temps. Plus ennuyeux, c'est l'administration. Ça, c'est un problème énorme. Vous passez votre temps à faire. Vous m'arrivez de passer des dimanches après-midi, vous faites de la paperasse administrative. Hein. J'essaye de faire de moins en moins. Mais c'est vrai que. Après, je vous dirai un peu comment c'est organisé. Mais c'est vrai qu'on passe. Un chercheur passe beaucoup son temps, mais pareil à l'étranger. Mais il y a eu une amélioration en France, dans la mesure où maintenant, avant, vous déposiez beaucoup de demandes pour pas beaucoup d'argent. Donc, on était obligé d'en déposer 15 pour avoir. Maintenant, l'ANR donne des sommes conséquentes. Et si vous avez un ou deux projets comme ça, accepter, c'est suffisant. Donc, je veux dire, c'est quand même une situation qui est beaucoup plus confortable qu'à une certaine époque. Hein. Alors, pour dire, par exemple, un peu que le nouveau laboratoire qu'on vient de créer il y a un an, tout juste, donc il s'appelle Thérapie des maladies génétiques. Et bien, vous voyez, comment ça s'organise. Alors, je n'ai pas réussi à mettre les cadres, là, parce que ça passait pas. Vous avez des équipes. Hein, et donc, une équipe qui travaille sur la maladie de Charcot-Marie, une équipe qui travaille sur la polykystose rénale et une équipe qui sont des pharmaciens en fait, qui travaillent sur le développement du médicament. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de statuts, on y reviendra. Et puis, donc, du personnel qui est en commun. Alors, par exemple, la personne qui s'occupe de tout l'entretien des animaux, des lignées, etc. La personne qui est en train des locaux, etc. Et une assistante de gestion plutôt qui s'occupe de tout ce que. Secrétariat, c'est pas un mot qui. C'est de moins en moins vrai, hein, le terme de secrétariat. Mais qui s'occupe par exemple de toutes les commandes, taper sur le logiciel quand on fait une commande, faire le suivi, contacter les gens, etc. Vous voyez qu'il y a toujours. Et chaque fois que vous avez quelque chose, que vous demandez de l'argent, que vous demandez la création d'un laboratoire, que vous demandez quoi que ce soit, vous avez toujours la notion d'organisation. Et d'organigramme. Je vais présenter, je veux dire, c'est un truc structuré, c'est pas des gens comme ça qui se mettent ensemble, allez, et puis on cherche dans tout quoi. Je veux dire, c'est toujours extrêmement structuré. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme type de métier dans un organisme de recherche? Alors, dans le laboratoire de recherche, alors, bon, il y a des gens qui sont chercheurs dans l'organisme public de recherche, soit enseignants chercheurs, mettre une conférence aux professeurs et qui suivent à peu près le même type de cursus. Hein. C'est pas, ça se ressemble à peu près. Donc, après le bac, c'est 3 ans de la licence. Après, c'est 2 ans, ce qu'on appelle le master. Parce que maintenant, les réformes, c'est ce qu'on appelle LMD. Licence, master, doctorat. Et ce qui se rapproche du système européen. Enfin, pas qui se rapproche, qui est le système européen. Parce qu'avant, on avait encore un système franco-français. Maintenant, c'est le système LMD, c'est le système européen, partout pareil. Et donc, la dernière année de master, pour les masters recherche, parce qu'il y a des masters professionnels, et vous avez, en fait, 6 mois de stage sur un projet de recherche, petit, puisque vous commencez à peine de faire de la recherche, vous ne savez pas trop ce que c'est, hein, c'est-à-dire, commencez, vous avez 6 mois dans lesquels vous faites une vraie recherche et vous faites présenter un mémoire. Et après donc ces 5 ans d'évaluation, eh bien, éventuellement, vous êtes engagé dans un labo pour faire une thèse, vous avez du financement, etc., etc. Et, alors, j'ai mis 4 ans, on dit 3 ans partout, mais la moyenne, c'est 4 ans. Je ne connais personne qui vraiment, 3 ans pile, soutienne sa thèse. Donc, à la fin de ceci, vous êtes titulaire d'une thèse doctorat d'université. Vous n'êtes jamais recruté après cela, en tant que chercheur en tout cas. Et il faut toujours aller faire ce qu'on appelle un stage doctoral, qui est un stage qui s'effectue dans un laboratoire qui n'est pas le vôtre, et 99 fois sur 100 à l'étranger. Alors, il y avait la grande mode des États-Unis. Maintenant, il y a des laboratoires extrêmement performants en Europe. Ce n'est pas la peine d'aller aux États-Unis. Hein. On trouve aussi bien en Europe que ce qu'on trouve aux États-Unis. En plus, la crise, elle les touche plus que maintenant que par exemple, le laboratoire allemand. Anglais, non. Donc, une fois vers la fin, que vous êtes à 11-12 ans, après le bac, vous postulez pour soit rentrer dans un organisme de recherche, soit sur un poste d'enseignant-chercheur. Alors, dans un organisme de recherche, il faut savoir que ce sont des concours. fonction publique et on ne rentre que sur concours. Et le concours, il est extrêmement sélectif. C'est pour ça aussi que... Et en plus, pour ne pas être très bien payé. Là, je suis désolé de vous décevoir un peu. Et c'est pour ça que beaucoup de plus en plus de moi, si j'avais une revendication majeure à faire les problèmes des universités, les machins, etc., c'est pas du tout ce que ni les syndicats ni les ministères disent, c'est l'argent. Doublez le salaire d'un chercheur, vous verrez qu'il y en aura. Et qu'il y en aura beaucoup plus et que les gens ils rentreront de l'étranger. Ils ne rentrent pas, pourquoi la majorité? Parce que c'est difficile, qu'on les paye pas cher et qu'ils n'ont pas les moyens qu'ils ont là-bas, hein, là où ils travaillent à l'étranger. Ça, c'est le gros problème. Et donc, quel est le déroulement de carrière que vous avez? Eh bien, vous commencez par être chercheur, c'est-à-dire que, encore une fois, lorsque vous êtes recruté et que vous passez le concours, vous le passez sur un projet aussi. Dites, voilà, moi je veux étudier ça. Voilà mon projet. Je veux prendre le médicament pour la maladie, machin. Hein, et oui, non, les gens votent, tac, oui, allez, on le prend. Donc, la personne travaille en général seule ou avec un étudiant. Et s'il est bon, et s'il est ambitieux, et s'il est performant, il monte autour de lui ce qu'on appelle un petit groupe, il devient un groupe leader. C'est-à-dire qu'il commence, par exemple, je vous ai montré, c'est la personne qui s'occupe de PKD, que j'ai commencé à monter moi maintenant, qui s'en occupe, c'est un jeune hospitalo-universitaire qui a fait un stage postdoc à l'étranger, qui a fait des trucs, qui a expliqué, etc. Voilà, et bien il monte son petit groupe. Et voilà. Donc, ça, c'est la deuxième étape de la carrière. Et donc, les laboratoires étant formés de plusieurs groupes. La troisième étape, si vous, les gens y tiennent absolument, mais de moins en moins, parce que c'est être directeur de laboratoire. Alors, directeur de laboratoire, c'est-à-dire que vous coordonnez l'ensemble des groupes, de l'argent commun et des grands choix stratégiques du laboratoire. Alors, c'est intéressant, c'est une responsabilité, mais vous avez l'administration de plein fouet parce que c'est à vous qu'il s'adresse. Même des fois, pour des choses qui regardent la secrétaire, il s'adresse à moi. Alors moi, je réponds pour voir la secrétaire, disant, c'est pas moi. Hein. Mais bon. Et chose intéressante, alors moi, comme je suis hospital universitaire, je suis très bien payé, ça ne pose pas de problème. Mais directeur de laboratoire, je n'ai pas un centime de plus à la fin du mois. Hein. Vous avez groupe leader ou directeur de labo n'est pas payé. Il est payé par sa fonction. Il est enseignant, il est chercheur, etc. Mais il prend la responsabilité de directeur de labo, on ne vous donne pas un centime de plus à la fin du mois. Ce qui est assez surprenant. Les gens croient que les directeurs de laboratoire touchent de l'argent. Pour ça. Non, pas un centime. Et vous n'avez même pas le droit de vous en payer sur vos grands. Avec ça. C'est pour ça qu'on en trouve de moins en moins qui veulent faire le boulot. Et alors, le deuxième truc, c'est les gens qui sont dans ce qu'on appelle le cadre technique, qui s'appelle ITA, alors c'est ingénieur, technicien, administratif, et dans lequel il y a plusieurs niveaux. Il y a des adjoints techniques, il y a des techniciens, ça c'est les grades comme à l'armée, hein, et des ingénieurs. Alors, le niveau classique, je dis technicien, adjoint technique, bon, c'est le bac, hein. Mais j'ai un niveau classique, c'est BTS, DUT. Ça, c'est pour vous. Parce qu'on rentre aussi sur concours, souvent. Et par contre, ingénieur, bien, c'est soit une école. Alors, par exemple, à l'Union, il y a les îles, une école qui forme pas mal d'ingénieurs qui sont recrutés. Ou un master professionnel, parce que je vous ai dit qu'il y avait des masters recherche. Il y a aussi des masters professionnels. Alors, par exemple, je veux dire, nous, à Marseille, là, dans le cadre de global de notre master, nous avons un master de conseil génétique, il y a 5-6, qui sont des ingénieurs qui font les tests génétiques. Hein, voilà. Et ils recrutent à peu près toute la France. Donc, il y a une dizaine de candidats par an qui viennent de toute la France et qui suivent ce master professionnel. Et s'ils réussissent, bien sûr, et ça veut dire qu'ils ont le label master professionnel. Alors, l'évaluation, je vous l'ai dit, elle est effectuée, comme on dit, par ses pairs, c'est-à-dire par des gens qui travaillent dans le même domaine que toi, et donc qui font les comités d'experts. Alors, et elle repose principalement sur le nombre et la nature des travaux publiés. C'est la grande, aussi, une des grandes questions qui a été posée dans les réformes récentes de l'université. C'est-à-dire que, par exemple, l'enseignement n'est pas évalué et la fonction hospitalière, pas très bien non plus dans le cadre des hôpitaux universitaires. Pour une raison simple, c'est que ce qu'on appelle l'économie des indicateurs, ce n'est pas facile à trouver. Par contre, le nombre de publications que vous effectuez et leur qualité, elle est facile parce qu'elle est quantifiable. C'est-à-dire, je suis un bon enseignant, bon, ça, personne ne dira que je suis un mauvais enseignant, mais je veux dire, comment on l'évalue ? Pas facile à dire. Parce que vous allez l'évaluer, quoi, la réussite de vos étudiants, par exemple. Est-ce que ça dépend uniquement du professeur ? Pas forcément. Donc, je veux dire, c'est difficile à évaluer. Par contre, les publications, c'est très facile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une publication scientifique ? Vous entendez souvent parler, peut-être. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il existe à peu près, en biologie, il doit exister un millier de revues, hein, qui sont des revues internationales. Alors, c'est surtout en anglais, hein, maintenant. Pas en français. Donc, nous, comme je vous dis, l'évaluation, donc, elle se fait sur les publications, les brevets, puis alors, qu'est-ce que c'est ? Ben, ça, c'est la publication qu'on a fait, qui a fait démarrer toute l'histoire. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites, vous écrivez vos résultats. Alors, en général, vous écrivez une introduction, ça vous explique ce que vous faites, voilà, le cadre général de la recherche dans le domaine, voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'on ne sait pas. Après, vous décrivez ce qu'on appelle le matériel et méthode, c'est-à-dire comment vous avez fait votre recherche, et puis vos résultats. Avant de trouver ça, alors vous mettez des graphiques, des photos, et puis à la fin, une conclusion. Ben voilà, la conclusion de notre travail, c'est ça. Et vous envoyez à la revue. Alors, vous l'envoyez, avant c'était par papier, par courrier, maintenant c'est par Internet. Hein. C'est-à-dire, c'est directement, vous vous déposez sur le site de la revue, même ils vont vous pêcher les documents dans votre ordinateur, puis bon, il faut un PDF de manière automatique, et ils vous le renvoient pour que vous le corrigiez. Et ils envoient ça à des reviewers. Des reviewers qui sont des gens du domaine parce qu'ils ont une liste de publications. Alors, bon, moi je suis reviewer pour pas mal de revues, tu reçois un article, voilà, est-ce que vous acceptez de reviewer ça ? Alors, ils vous donnent de l'abstract. Hein. Et vous le lisez. Alors, c'est très bien parce que vous êtes évalué. En général, ils n'envoient jamais à des gens qui sont des experts reviewers qui soient de votre pays. Hein. Toujours du domaine, ils envoient toujours un français, ils envoient généralement un anglais qui se fait un plaisir de vous tailler parce que c'est pas beaucoup le français. Mais. Et puis, bon, vous écrivez, oui, non. Alors, y a, vous dites, on accepte, on n'accepte pas. Ou on accepte, mais il faut qu'on révise ce site, qu'on réécrivait, etc., etc. Et le taux de réussite, il est variable. Il est variable. Par exemple, une grande revue comme Nature, Nature Medicine, ils acceptent 5% des articles, pas plus, hein, qui leur sont envoyés. Donc, je veux dire, et pour chacune de ces revues, ils attribuent ce qu'on appelle un facteur d'impact, qu'on appelle l'impact factor. Qui est calculé comment ? Ben, il est calculé sur la citation dans les autres articles. Donc, on a un ranking des revues dans les plus grandes revues. Bon, elle a 40, puis les plus petites, elles ont 0,1. Donc, il est facile de faire une évaluation. Vous multipliez le nombre de publications que vous avez fait dans l'année par l'impact factor. Vous avez le niveau de publication que vous faites. Et à ce moment-là, on peut dire, si quelqu'un me dit, ouais, mais c'est pas... Mais attends, voilà, j'ai publié ça, hein. Publier ça dans telle revue, dans tel truc. Et les types, c'est souvent, quand ça les calme, quand ils cherchent à vous nuire pour des raisons non scientifiques. Donc c'est très facile à évaluer. Et la plupart de l'évaluation qu'on nous demande, c'est ça. C'est la liste de publications. Et vous êtes souvent recruté aussi sur votre liste de publications. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui présentent des projets extrêmement intéressants, mais sinon pas. Parce qu'ils font leur preuve en ayant publié des résultats extrêmement importants et ce soir, ils ne sont pas recrutés. Bon, la deuxième chose que l'on fait, mais qui commence un petit peu à être utilisée, mais pas beaucoup, c'est les brevets, bien sûr. Dans la recherche industrielle, c'est que ça. Chez nous, en académique, ça l'est moins, mais heureusement... Alors, dans les grandes universités américaines, ils ont mis depuis 20-30 ans des pratiquement des 4 cabinets de brevets de l'université qui vous aident à l'écrire, parce que écrire un brevet, c'est pas facile, hein, c'est bizarre. Hein. Et maintenant, on est en train de faire la même chose dans les structures publiques de recherche. Mais c'est très intéressant. Alors, la notion de brevet, il faut savoir aussi que c'est pas forcément, ça ne veut pas dire industriel. C'est aussi de la protection intellectuelle. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis un brevet sur quelque chose, les gens peuvent faire de la recherche, mais peuvent pas le développer d'un point de vue industriel. Vous pouvez très bien continuer à faire la recherche sur une molécule brevetée, par exemple. Pas de problème. Mais vous ne pouvez pas l'utiliser pour faire de la recherche et puis pour vendre derrière. Ça, c'est interdit.